Chapitre 21. Est-ce moi qui le lui ai proposé ou lui qui me l'a demandé? À vrai dire, je ne le sais plus. Toujours est-il qu'hier, pendant le dîner, alors que Gwénolé riait de mes histoires de buse et de lobes d'oreilles exsudant leur stress, oubliant consciencieusement de vider le contenu de son assiette, il a été décidé qu'aujourd'hui, je l'accompagnerai à la maison de retraite pour faire la connaissance de sa femme. Pour être honnête, ça m'inquiète, cette soudaine perte d'appétit. Je connais Gwénolé depuis peu, pourtant je suis certaine que cela ne lui ressemble pas. C'est à l'opposé de son tempérament. Il a toujours été mince, mais on remarque déjà qu'il a perdu un peu de poids. Au moment du dessert qu'il a décliné au profit d'un simple café, Frédéric nous a proposé de prendre l'une des voitures mises à la disposition des clients pour nous rendre à l'EHPAD, mais j'ai refusé. Prétextant qu'un trajet en bus me rappellerait ma jeunesse et ces nombreux voyages de classe que j'ai effectués souvent de nuit. La vérité, c'est que depuis l'accident, je suis incapable de conduire. Rien que m'asseoir dans une voiture est une épreuve que je m'épargne au maximum. Nous voilà donc tous les deux, Gwénolé et moi, assis dans un bus en direction de sa femme. Pour l'occasion, il porte la cravate que je lui ai offerte et qui, sur lui, a une certaine allure. Il est sans doute le seul homme au monde qu'une cravate de ce genre rend élégant. Vous n'avez pas dit grand-chose depuis que nous sommes partis. Ça ne va pas ? Lui demandai-je. Pendant quelques secondes, il ne répond rien. Puis, sans tourner la tête vers moi, l'esprit assez loin d'ici, il me livre ses sentiments. C'est dur de ne jamais savoir dans quel état je vais la trouver en arrivant. Sera-t-elle enjouée et de bonne humeur ? Ou sera-t-elle dans un mauvais jour, la tristesse gravée sur son visage parcheminé ? Mais par-dessus tout, le plus difficile, c'est d'avoir toujours au creux de l'estomac ce fol espoir. Celui qu'elle me reconnaisse, qu'elle prononce mon prénom. Le neurologue m'a dit que c'était peu probable. Au stade d'avancement de la pathologie, son cerveau a sans doute complètement effacé mon existence. Pourtant, l'espoir est là, tapis, impossible à éteindre. Chaque fois, c'est pareil. Lorsque j'approche de sa chambre, j'ai les mains moites, le cœur qui s'emballe et j'espère. Oh oui, j'espère. Oh, Gwénolé, vous voyez, même un vieux bonhomme comme moi croit encore au miracle. Il rit quelques instants, de ce rire qu'on utilise pour ne pas pleurer. Puis il se tourne vers moi. Veuillez excuser mon égoïsme, Roxane. Je déverse devant vous mes états d'âme alors que vous-même avez vécu bien pire. Ne vous excusez pas, surtout pas. Depuis la mort de Xavier et de ma fille, c'est comme si tout le monde s'interdisait de ressentir de la peine en ma présence. Comme si les gens ne pouvaient plus être eux-mêmes. Il n'y a pas de hiérarchie dans les souffrances. Et je comprends complètement la vôtre. Je ne sais pas ce qui vous a conduite jusqu'ici, mais je remercie le ciel de vous avoir mise sur ma route, Roxane. Vous êtes une bénédiction. Et merci encore d'avoir accepté de m'accompagner. Il est à peine 15 heures lorsque nous pénétrons dans l'enceinte de l'EHPAD. Gwénolé salue toutes les personnes que nous croisons et je ne suis pas surprise de voir qu'il connaît le prénom de chacune d'elles. Alors que nous nous dirigeons vers un couloir, Gwénolé s'arrête quelques instants non loin d'une jeune femme qui dispose des bouteilles sur les tables de ce que je suppose être la salle à manger des résidents. « Bonjour Mia, je suis bien content de vous revoir. Comment va votre petit garçon ? On m'a dit que vous étiez absente parce qu'il était malade. J'espère qu'il n'y a rien de grave. » La jeune fille interrompt ce qu'elle était en train de faire pour s'approcher. Elle semble si jeune. Un sourire aussi timide que fugace passe sur son visage. « Bonjour, monsieur Gwénolé, comment allez-vous ? »
« Vous persistez à employer le monsieur qui me donne l'impression d'avoir 20 ans de plus. Je vous en prie, Mia, appelez-moi Gwénolé. »
« Je... ce ne serait pas poli et je n'ai pas le droit. »
« Tant pis. Allons-y pour le monsieur. Après tout, je ne suis plus à 20 ans près. Mais dites-moi, Mia, comment va votre petit garçon ?»«
Il a eu beaucoup de fièvre, mais il va mieux. C'est gentil de vous inquiéter. »«
Bon, Vous m'en voyez rassurée. Quand vous n'êtes pas là, sachez qu'il manque quelque chose d'essentiel ici. Et je ne suis pas le seul à le penser. Poursuit-il alors que la jeune fille rougit du compliment. Ma femme aussi vous aime beaucoup. Je vois ses yeux qui s'illuminent lorsque vous entrez dans sa chambre.
Se rappelant soudain ma présence, il ajoute « Ah, et je vous présente Roxane, une amie qui séjourne dans le même hôtel que moi. »
« Bonjour, madame, » me salue Mia.
« Bonjour, ravie de faire votre connaissance. »«
Comment est-elle aujourd'hui ?»
enchaîne Gwenolé.
« Bonne ou mauvaise journée ?»
Je perçois sans mal le tremblement de sa voix et devine que la réponse donnera le ton des heures qui vont suivre.
« Plutôt bonne journée, »
lui répond Mia avec pourtant beaucoup de tristesse dans le regard, mais aussi de la compassion, me semble-t-il.
« Alors allons-y. À tout à l'heure, Mia. »«
Oui, à tout à l'heure, monsieur Gwenolé. »
Il saisit mon bras, m'adresse un grand sourire sincère, apparemment heureux de l'information reçue. Puis nous entrons dans un long couloir ponctué de grandes portes quasiment toutes fermées. Mia, c'est l'aide-soignante dont vous m'aviez parlé ?
Oui, c'est elle. Une jeune femme adorable.
Elle paraît si jeune.
Oui, elle l'est en vérité. Elle n'a pas 22 ans. Il m'a fallu beaucoup de patience, mais j'ai fini par savoir qu'elle n'a pas eu une vie facile. Ses parents l'ont mise à la porte lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle avait 17 ans. Elle aime son petit garçon plus que tout. Vous verriez comme ses yeux se mettent à briller quand elle parle de lui. Il y a un an, elle a accompagné une dame atteinte d'un cancer jusqu'à sa mort. Elle ne s'est pas étendue sur le sujet, mais apparemment cette dame aussi souffrait de la maladie d'Alzheimer. C'est ce qui l'a conduite à reprendre des études et à devenir aide-soignante. Elle était faite pour ce métier. C'est assez rare de rencontrer quelqu'un qui aime son prochain comme elle peut le faire. Quand elle est avec ma femme, Mia ne fait pas juste son travail, non. Elle est prévenante et attentive. Elle fait preuve de beaucoup d'empathie. Je crois qu'elle sait combien cette foutue maladie est douloureuse pour l'entourage, alors elle prend aussi soin de moi.
Devant la porte de ce que je devine par conséquent être celle de la chambre de sa femme, il se fait soudain silencieux.
Ça va aller ?
C'est ce fol espoir. Encore lui.
Je lui presse la main quelques secondes, puis il toque à la porte.
Oui ? Entrez !
Nous répond une voix douce. Elle est assise dans un fauteuil, un livre ouvert sur ses genoux qu'elle a recouvert d'une couverture beige à motifs fleuris. Elle est incroyablement belle, et cela confirme la représentation que je m'étais faite d'elle. De longs cheveux d'un blanc parfait, relevés en un chignon savamment structuré, de grands yeux bleus, un petit nez retroussé autour duquel on devine encore quelques taches de rousseur, de fines lèvres roses. Je comprends pourquoi Gwenolé est tombé amoureux d'elle au premier regard.
Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous ?
Mon cœur se serre. Le fol espoir ne se réalisera pas aujourd'hui.
Élise, c'est moi, Gwenolé.
Gwenolé ?
Je ne crois pas connaître de Gwenolé. Un prénom peu courant comme celui-là, je m'en souviendrai, il me semble.
Vous êtes sûr que l'on se connaît ?
Vous faites peut-être erreur. Il y a tellement de vieilles dames ici, et avec le temps, on finit par toutes se ressembler. Non, je ne fais pas erreur.
Répond-il sur un ton qu'il cherche à rendre enjoué.
« C'est bien toi que je viens voir, Élise. Nous... sommes de vieux amis. »«
De vieux amis, vous êtes sûr ? » ?»«
Ça ne me dit rien du tout. »«
La vieillesse, c'est vraiment terrible. »« Parfois, je me dis que j'en viendrais à oublier mon propre mari si j'étais mariée. » Il est heureux que je ne l'ai jamais été.
C'est pire que ce que je m'étais imaginé. Pauvre Gwenolé. Soudain, le visage d'Élise s'éclaire.
Vous faisiez partie du club de belote, non ?
Il hésite à peine quelques secondes avant d'acquiescer.
Oui, tout à fait. Je savais bien que tu ne pouvais pas m'avoir oublié.
Oh, ça me revient maintenant, mais oui, bien sûr, Gwenolé.
Un sacré bon joueur, si je puis me permettre, qui nous a donné des sueurs froides à bien des reprises. Oh, c'est très gentil de me rendre visite.
Il me semble que cela fait des années que je n'ai plus joué aux cartes.
Il faudrait que j'en parle à Mia, c'est mon aide-soignante préférée. Peut-être qu'elle réussirait à convaincre l'animatrice d'organiser quelques parties.
Je n'étais pas mauvaise à une époque,
et c'est sans doute comme le vélo. Ce serait en tout cas bien mieux que de nous mettre devant cet écran géant pour nous projeter des films remplis de Marie couche-toi là qui n'arrête pas de se saouler pour un oui ou pour un non.
Elle rit et Gwenolé l'imite. Avant de prendre place sur le second fauteuil de la pièce, il me présente à sa femme comme l'une de ses amies.
« Vous aussi faisiez partie du club de belote ?»
me demande-t-elle.
« Il ne me semble pas me souvenir de vous. Oh, décidément, aujourd'hui, ma mémoire me joue des tours. »«
Puis non, bien sûr, vous êtes trop jeune. » »«
Non, je ne faisais pas partie du club. Je crois même n'avoir jamais joué à la belote de ma vie. » Gwenolé et moi nous connaissons depuis peu.
C'est dommage que les jeunes de nos jours ne jouent plus aux cartes. Pourtant, c'est une occupation très agréable.
Et ça fait travailler la mémoire.
Même si on ne dirait pas quand on me voit chercher qui est qui, je vous l'accorde.
Ajoute-t-elle avec une pointe d'espièglerie.
Vous verrez quand vous aurez nos âges.
Élise se lance alors dans le récit de parties de cartes endiablées ponctuées de retournements de situation et de disputes à propos de tout et de rien, mais surtout d'interprétations variables des règles du jeu. Gwenolé, comme il sait si bien le faire, l'écoute attentivement et la couve d'un regard amoureux. Près d'une heure s'écoule ainsi, un moment qui serait tout à fait banal s'il n'avait pas lieu entre un mari et sa femme qui ne le reconnaît pas et qui ne voit en lui qu'un partenaire de cartes. Trois petits coups frappés sur la porte interrompent la discussion. Mia apporte un plateau avec du thé et deux petits gâteaux.
« Merci beaucoup, Mia. J'ai de la visite aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Gwenolé, un vieil ami qui faisait partie de notre club de belote, est venu me saluer. N'est-ce pas adorable ?
J'avais presque oublié combien j'aimais jouer aux cartes.
Il faudra en parler à Natacha. » Est-ce que j'abuse si je vous demande de lui glisser deux mots à ce sujet?
Je ne savais pas que vous aimiez jouer aux cartes. Je ne connais pas la belote.
Oh, c'est très facile. Je pourrais vous apprendre si vous le désirez. Alors, vous en parlerez à Natacha?
Bien entendu. Quand je la verrai, je lui proposerai cette idée.
Vous êtes vraiment adorable, ma petite Mia.
Oh, mais j'y pense. Quelle heure est-il?
Il est presque 16h30, répond Gwenolé.
Oh, je vais être en retard. J'ai rendez-vous dans la salle de lecture avec Pierre à 16h45. Il vit ici, lui aussi. Nous lisons en ce moment le même roman et nous nous retrouvons pour en parler.
Ses yeux se mettent à pétiller et ses joues rosissent légèrement à cette évocation. Intérieurement, je prie pour être la seule à le remarquer ou pour qu'il s'agisse là d'un langage féminin non accessible à la gente masculine.
Nous sommes de vieux amis, explique-t-elle à l'intention de Gwenolé.
Après tout, je peux te le dire, poursuit-elle. Pierre et moi sommes amoureux.
Ça faisait des années que cela ne m'était pas arrivé. Oh, j'ai l'impression d'être à nouveau une jeune fille de 20 ans.
Il est grand, beau et très distingué. Je suis certaine qu'il te plairait. Peut-être lui aussi aime-t-il jouer à la belote. Oh, je n'ai jamais pensé à le lui demander. Si tu as encore quelques minutes, je pourrais te le présenter.
Ça aurait été avec plaisir, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Roxane doit prendre un train à 17h et je lui ai promis de l'accompagner à la gare.
Oh, je te reconnais bien là, toujours prévenant.
Alors ce sera pour une autre fois.
Il faudra revenir me voir. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, mademoiselle,
me dit-elle en se levant de son fauteuil avec difficulté. Il se penche pour lui déposer une bise sur la joue et lui promet d'essayer de revenir la voir bientôt. Le sourire présent sur son visage quelques secondes plus tôt meurt aussitôt qu'il se retourne et que nous quittons la chambre. J'ai tellement de peine pour lui. Je cherche les mots que je pourrais prononcer pour apaiser ce qu'il vient d'entendre, mais je ne trouve rien de suffisamment fort. Le silence nous accompagne donc alors que nous nous dirigeons vers la sortie de l'établissement.
Mademoiselle ?
Je me retourne au son de la voix de Mia.
Vous avez oublié votre foulard ?
M'indique-t-elle.
Je sors faire quelques pas. Je vous attends dehors, murmure Gwenolé.
Je comprends qu'il souhaite être seul un petit moment. Comment pourrait-il en être autrement ? Pensais-je en le regardant s'éloigner.
J'ai beaucoup de peine pour lui,
me dit Mia qui m'a rejointe et me tend mon foulard.
Il est si triste depuis qu'il sait. Bien sûr, il fait semblant. Chaque fois qu'il vient, il fait semblant, pour elle. Mais ses yeux n'y arrivent plus, depuis qu'il sait. La dernière fois qu'il est venu, Madame Élise lui a dit pour Monsieur Pierre. Elle a cru qu'il était son frère, alors elle lui a raconté. Elle était si joyeuse de lui parler de son amoureux. J'étais dans la chambre et j'avais envie de pleurer pour lui.
La perte d'appétit. La mélancolie, soudain tout s'explique. Gwenolé sait maintenant que celle qu'il aime depuis qu'il a 18 ans et qui ne se souvient pas de lui en aime un autre.
Si vous êtes son ami, ne le laissez pas tout seul, ça va empirer.
Pour Madame Élise.
Plus le temps va passer et plus... Non, il ne faut pas qu'il soit seul.
Il a raison. Vous êtes une belle personne. Les résidents de cet EHPAD ont beaucoup de chance de vous avoir. Elle rougit, visiblement peu habituée à recevoir de tels compliments.
Oh, merci. Je vous laisse, j'ai beaucoup de travail.
Elle fait demi-tour et disparaît dans un autre couloir qui mène sans doute vers d'autres chambres où se trouvent d'autres personnes que la vieillesse n'a probablement pas non plus épargnées. Après une dizaine de minutes à chercher à l'extérieur du bâtiment, je finis par trouver Gwenolé assis sur un banc dans le parc qui entoure l'EHPAD. Je m'assois à côté de lui.
C'est vraiment joli ici.
Oui. Derrière, un peu plus loin, il y a un bois avec des biches en liberté. Je tenais à ce qu'Élise soit entourée de verdure. Elle a toujours aimé la nature.
Et la belote, apparemment.
Ajoutai-je avec amusement.
Les animaux, la nature, c'est certain. Les cartes. Je crois qu'elle n'y a jamais joué de sa vie. Même avec notre fille. Les jeux de société, ça n'a jamais été sa tasse de thé.
Mais tout à l'heure, le club de belote, toutes ces anecdotes...
Issue de son Alzheimer, sans doute. Elle ne se contente pas d'oublier, elle invente également. Parfois, elle choisit la peinture, d'autres fois la danse. Aujourd'hui, c'était la belote. Au début, c'était déstabilisant, et puis, c'est comme tout. On finit par s'y habituer et faire avec.
Pourquoi ne lui dites-vous pas que vous êtes son mari quand elle ne vous reconnaît pas ? Peut-être que ça l'aiderait, qu'elle réussirait à recoller les morceaux de sa vraie vie.
J'ai essayé au début. Bien entendu que j'ai essayé. Quand elle me disait qu'elle ne connaissait pas de Gwenolé, je lui disais que nous étions mariés, je lui racontais le jour de notre mariage, lui rappelant combien elle était belle. Combien j'étais fou d'elle. Je lui montrais même des photos pour qu'elle me croie.
Ça n'a jamais fonctionné, non?
Pire. Ça déclenchait chez elle des angoisses majeures. Parce qu'elle ne se souvenait pas. Et que pour elle, c'était impensable d'oublier son propre mari. C'était une confirmation qu'elle était malade, alors que tout son être lutte contre cette réalité. Est-ce qu'inventer des mensonges est pour son cerveau le meilleur moyen d'effacer la cruelle réalité ? Je n'en sais trop rien. Toujours est-il que je n'essaie plus de lui dire que je suis son mari. Je me contente des rôles qu'elle veut bien m'attribuer.
Quand Mia m'a rendu mon foulard, elle m'a dit pour Pierre que vous saviez.
Je ne l'ai pas vu venir. Bon, bien sûr, je sais que c'est une très belle femme et que nombre d'hommes ont été attirés par elle. Mais elle n'a eu Dieu que pour moi pendant près de 60 ans. J'avais la faiblesse de penser que rien ne changerait. Que cette foutue maladie.
Sa voix se brise.
Je suis tellement désolée, Gwenolé. Je ne peux qu'imaginer combien cela doit être dur.
Vous l'auriez entendu me parler de lui la dernière fois. Me dire combien elle le trouvait drôle et charmant. Me demandant ce que je pensais du fait de se marier pour la première fois à son âge. Se marier pour la première fois.
Les larmes coulent sur ses joues. Je crois n'avoir jamais vu un homme pleurer. Qui plus est, un homme de plus de 70 ans. Et ça me bouleverse.
J'étais là devant elle.
Elle avait de nouveau ce regard qui n'était que pour moi. Sauf que ses pensées étaient tournées vers quelqu'un d'autre.
Il m'avait bien semblé que vous n'étiez pas vous-même depuis mon retour de New York. Vous ne mangez plus.
Je suis tellement désolée.
Pourquoi être désolée? Vous n'y êtes pour rien. Sans doute ai-je dû faire dans une vie antérieure quelque chose de mal que Dieu décide de me faire payer aujourd'hui. Tout à l'heure, alors que nous nous apprêtions à entrer, j'ai souhaité que le mal ait gagné du terrain. J'ai souhaité qu'elle ait oublié ce Pierre et ses sentiments pour lui.
J'étais prêt à renoncer à ce qu'elle se souvienne un jour de moi,
contre la garantie qu'elle n'aimerait plus jamais quelqu'un d'autre.
Vous allez sans doute penser que je suis un homme cruel et je ne pourrai que vous donner raison.
S'il y a bien une chose que je ne penserai jamais de vous, c'est celle-ci. Vous êtes tout sauf cruel. Vous êtes simplement un être humain, Gwenolé. Qui ne réagirait pas comme vous dans une telle situation?
Peut-être. Je ne sais pas. Mais je ne vous ai pas dit le pire. Le pire, c'est que je suis incapable de ne pas lui en vouloir à elle, Élise. Je lui en veux d'être tombée amoureuse d'un autre. Je lui en veux de n'être pas assez forte. Je lui en veux tellement, si vous saviez, Roxane.
La colère. Ce sentiment qui m'est si familier. La colère. Cette vieille amie qui m'aide à tenir depuis tous ces mois. Évidemment que je sais. Mais une fois de plus, je ne trouve pas les mots pour le dire. Et je réalise que je ne les ai déjà pas pour moi. Alors, pendant plusieurs minutes, nous restons assis en silence. Le temps que sèchent ses larmes et que cesse le tremblement de ses mains.
Il faut nous hâter, si nous ne voulons pas rater le dernier bus.
Et ce matin, j'ai promis à Alban que nous serions là pour l'écouter répéter la grande scène finale de Roméo et Juliette. Les amants maudits de Vérone. Une histoire d'amour aussi belle que tragique. En cet instant, je donnerai à peu près tout ce que j'ai pour que le professeur de théâtre d'Alban ait choisi à la place de monter les fourberies de Scapin.